Radio Kapi.
Une, cette alerte de 10 ONG de droits de l'homme concernant le questeur du Sénat, Éric Roubouille, subirait des menaces de mort de la part de certains politiciens le poussant à vivre en clandestinité. Motif, ses allégations de blanchiment d'argent vis-à-vis des politiques. La ville de Bukavu en proie à l'insécurité. Des bandits opèrent en toute quiétude et en pleine journée. Tenez, rien que samedi, 4 personnes ont été tuées dans les communes de Kadutu et de Bagira. Les populations locales se disent abandonnées, mais la police dit être sur les traces de ces bandits. Et puis, les médias congolais s'intéressent plus à la politique et parlent moins de l'économie, ce alors que la RDC offre d'énormes opportunités d'affaires. Déclaration du fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network, Noël Tchani, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. 10 organisations de droits de l'homme, parmi lesquelles le Reprodoc et le Cogeski, demandent au président de la République de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et le droit du questeur du Sénat, Éric Roubouille. Dans une déclaration à la presse hier à Kinshasa, ces organisations dénoncent le retour en force des pratiques qui mettent à mal l'état des droits prônés par le chef de l'État, notamment la traque d'un sénateur en fonction, le poussant à une vie de clandestinité. Écoutez plutôt Maître William Wenga, coordonnateur du Reprodoc Prodoc Kinshasa, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous, organisation non gouvernementale de défense et de promotion des droits de l'homme, mouvement citoyen de la société civile, suivons avec attention les cris de détresse et d'alarme sur l'honorable Éric Roubouille, questeur du Sénat. Il nous revient que sur base des allégations de blanchissement d'argent montées par des officines politiques pour des raisons probablement des règlements des comptes, des reconfigurations politiques actuelles, il lui a été proféré des intimidations, des menaces de mort, jusqu'à le pousser à une vie de clandestinité, ce qui met à mal l'état de droit pourtant prôné par le chef de l'État. Les organisations de défense des droits de l'homme et des mouvements citoyens dénoncent ces méthodes staliniennes et demandent au président de la République de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et les droits du questeur du Sénat. Elles prennent aussi à témoin la communauté internationale et leur demandent de s'impliquer pour garantir la protection du questeur du Sénat aujourd'hui traqué.
Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le panel des experts de la société civile recommande aux députés nationaux de privilégier la représentation des femmes. Dans un point de presse tenu hier à Kinshasa, le coordonnateur de cette structure citoyenne plaide pour que les candidatures indépendantes soient maintenues, privilégiées et soutenues. Écoutez à ce sujet, Dieudonné Mouchagaloussa, propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Depuis un certain temps, la RDC, notre pays, traverse une situation complexe caractérisée par les événements qui se passent à l'Assemblée nationale. Les efforts déjà fournis jusque-là pour doter la chambre basse du Parlement du bureau définitif pour que la RDC continue à demeurer un état de droit dans la séparation du pouvoir et d'autre part permettre aux dirigeants de réaliser leurs programmes d'action pour le bien-être du peuple congolais sont à saluer. Suite au récent arrêt de la Cour constitutionnelle, le mandat n'étant plus impératif, les candidatures indépendantes devraient être maintenues, privilégiées, soutenues et le processus de validation doit rassurer par sa transparence. La parité dans la répartition des fonctions étant constitutionnellement garantie, la représentation des femmes devrait être conséquente au bureau. Le panel des experts de la société civile exhorte les députés électeurs à faire prévaloir les critères et la probité pour éviter des personnes impliquées dans la gabegie financière pour faire face aux défis actuels.
Pendant ce temps, le député honoraire Luin Tolé salue l'avènement d'une nouvelle ère politique et s'engage à dénoncer preuve à l'appui, je le cite, « tous ceux qui saignent à blanc le trésor public ». Fin de citation. Cet ancien interfédéral du PPRD dans le Katanga l'a fait savoir samedi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Lubumbashi. Il préconise que la lutte que mène le chef de l'État s'étende aussi dans les provinces. Écoutez le député honoraire Luin Tolé dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Dorénavant, nous allons commencer à dénoncer. Nous sommes en train de multiplier les démarches auprès du chef de l'État pour qu'il comprenne que la lutte qu'il fait au niveau national doit se faire aussi dans des provinces. Vous savez, c'est loin du chat que la souris danse. C'est la même chose. Ici en province, nous n'allons pas commencer à parler sans preuve. Nous allons commencer à réunir toutes les preuves, n'est-ce pas, pour que, éventuellement mettre en accusation des gens qui s'amusent à détourner les deniers publics de l'État. C'est notre argent à nous tous. Par conséquent, on ne peut pas admettre qu'un quidam se permette de jouer avec l'argent de la province. La province appartient à tout le monde. Nous tous, nous sommes concernés par la gestion de la chose publique. Les gens-là qui gèrent sont comptables de nous.
Par ailleurs, le parti politique Nouvel Élan, cher Adolphe Mouzito, premier ministre honoraire, pense que la solution à la crise multiforme que connaît la RDC est plutôt économique que politique. C'est ce qu'a déclaré Kassongo Numbi, vice-président de ce parti, au cours d'une conférence débat tenue samedi à Kinshasa. Kassongo Numbi est au micro de Paul Matendo.
Tout le parti pense que c'est la politique qui doit régir l'économie, c'est-à-dire vous faites votre politique, vous pouvez même ne pas parler de l'économie et vous la conduisez. Mais le nouvel élan au pays qui pense l'inverse, que c'est plutôt l'économie qui va maintenant dicter la politique. Vous avez vu aujourd'hui les solutions que l'on apporte à la crise qui a été identifiée par tout le monde. Mais quand on l'analyse, on dit, les gens ne sentent rien, la monnaie se dévalue, les salaires. Mais on parle de l'économie au moment de la crise. Mais au moment d'apporter des solutions, on apporte des solutions politiques. Si c'était le nouvel élan aujourd'hui au pouvoir, nous n'allons pas chercher à constituer des majorités parlementaires ou tout ça. Ce sont des solutions politiques. Nous allions aller plutôt dans le sens de résoudre le problème économique.
Dans l'actualité aussi, cette série de mesures conservatoires consécutives à la démission du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, mesure édictée par le directeur de cabinet du chef de l'État, dans un communiqué daté du 30 janvier 2021, Guylaine Yembo annonce la suspension de recrutement, nomination et la promotion du personnel à tous les niveaux. Il suspend également tout engagement, liquidation et paiement de toutes dépenses autres que les charges du personnel, suspension aussi des voyages à l'extérieur du pays. Les membres du gouvernement et ceux de leur cabinet sont concernés par cette mesure. Et puis, nous sommes bien le 1er février 2021, exactement 4 ans depuis la mort d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba, décès survenu à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Sa dépouille mortelle était arrivée à Kinshasa le 30 mai 2019, inhumée dans la périphérie de Kinshasa le 2 juin 2019. Selon le programme de la maison civile du chef de l'État, une cérémonie commémorative est prévue ce matin au mausolée du défunt situé dans la commune de Lancélé. Le président Félix Antoine Tshisekedi, les membres de sa famille et les cadres de l'UDPS prendront part à la cérémonie. Direction le Sud Kivu, je vous l'ai dit en titre. La situation sécuritaire de la ville de Bukavu prend de plus en plus des dimensions inquiétantes. 4 personnes ont été tuées samedi 30 janvier dans la commune urbaine de Kadutu et celle de Bagira. La population crie au secours, nous dit Emmanuel Elamé Jiwakabedi.
La première attaque des bandits armés est intervenue samedi aux environs de 14 heures. Les malfrats ont emporté de l'argent et autres biens du quartier Monsala en commune de Kadutu. Dans leur fuite à moto, un d'entre eux est appréhendé et lynché à mort sur place par la population. À 19 heures, dans la même commune de Kadutu, les bandits en armes attaquent un shop de vente de téléphones portables au quartier Kasali à Limanga. Ils tuent un jeune homme de 17 ans et blessent un motard par balle. Les malfrats abandonnent leur véhicule qui sera saccagé par la population. Le même soir, aux environs de 20 heures, c'est un dépôt relais qui sera attaqué au quartier Chahi en commune de Bagira. Ils tuent une femme et son bébé qu'elle portait au dos. Cette résurgence de l'insécurité sur la ville de Bukavu inquiète maintenant les habitants qui se disent abandonnés. Le commissariat de la police du Sud Kivu avait affirmé à Radio Kapi être sur les traces des bandits qui utilisent un nouveau mode opératoire, celui de voler et tuer même en pleine journée. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
Au nord Kivu voisin, plus de 20 000 personnes déplacées reparties en plus de 5 000 familles vivent dans des conditions humanitaires précaires dans la zone de santé de Kiondo, chefferie des Bachou, dans le territoire de Beni. Ceci est contenu dans le rapport de l'ONG MAPEDE, entendez, mission d'aide aux personnes en détresse, basée dans la ville de Butembo. Cette ONG dit avoir mené une étude d'évaluation des 2 semaines sur les conditions de vie de ces déplacés, dont la majorité provient du secteur de Rwenzori depuis octobre dernier, fuyant des atrocités des EDF. Théophile Lutsumbi, coordonnateur de cette structure, s'est confié à Grace Amzati.
Vous allez savoir par exemple que la zone de santé de Kiondo, qui compte 22 aires de santé, a accueilli 21 035 personnes déplacées qui sont regroupées à 5 016 familles de ménage. Ils arrivent sans habits. La plupart des déplacés que nous avons interrogés, ils quittaient là et traversaient directement le parc de Virunga via le chemin de Kamba Karuruma à pied, plus de 45 km à pied. Toute une famille avec des affaires de moins de 5 ans, nous avons trouvé que les conditions sont précaires, catastrophique. Ils n'ont pas quoi manger. Je vous fais l'exemple d'une famille avec 1,5 hectare de champ, accueille 20 personnes. Comment on va les nourrir? Quand vous logez dans une chambre de 2 mètres sur 2, vous logez par exemple 10 personnes. À vouloir chercher une solution à un problème de la guerre, ils peuvent créer d'autres problèmes de maladies.
Province du Congo central, signalons l'inhumation samedi de 15 adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala de Némouandansemi, tués lors d'une altercation avec les éléments de la police. Incident survenu dans la nuit du 21 au 22 avril 2020. Les corps étaient jusque-là gardés à la morgue de l'hôpital Ime Kimpese. La cérémonie de mise en terre s'est déroulée 9 mois après, au kilomètre 5, dans le territoire de Songololo. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur Atumatubwana. Dans son mot de circonstance, Nempunantsosani, vice-président national du mouvement Bundu Diamayala, a indiqué que ses adeptes tués sont des martyrs pour le combat d'un état de droit. Ainsi, il plaide pour que justice soit faite. Le vice-président national du mouvement Bundu Diamayala, dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambou.
Pendant des décennies, nous comptons des milliers de morts entre nos membres sans qu'un seul de leurs bourreaux ne soit condamné. C'est ainsi que nous posons la question de savoir si ne sommes-nous pas des humains comme les autres Congolais pour bénéficier de la même protection de la vie, de l'égalité de tout devant la loi. On peut nous écraser comme des fourmis sans aucune personne ni aucune ONG. Les droits de l'homme ne puissent hausser les tons. À l'ère de l'union sacrée de la nation prônée par son excellence, président de la République, il nous est permis d'espérer de vivre un vent nouveau. Aussi, nous profitons de ce triste événement pour informer publiquement son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nos 46 membres qui étaient en détention à la prison de Bandung, récemment transférés à Ndolo, sont toujours en prison. Nous sollicitons son implication personnelle afin que tous nos membres détenus illégalement dans Ndolo, à la prison de Makala, Kambanzangungu, soient libérés dans un bref délai. Nous profitons de l'occasion pour rappeler à l'État congolais que nous sommes des Congolais comme les autres. À ce titre, nous avons droit à la liberté de pensée, de religion, de rassemblement, sans que nous ne soyons à tout moment victimes de massacres, d'un traitement discriminatoire et candidat à la mort.
Actualité, Afrique Monde.
Covid-19, les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui enquêtent en Chine sur l'origine du coronavirus, se sont rendus hier au marché Wuhan de Wuhan, premier foyer connu de l'épidémie. Le marché de Wuhan était notamment vendu des animaux sauvages vivants et fermé depuis janvier 2020. Les gardiens n'ont laissé entrer que les véhicules du groupe d'enquêteurs de l'OMS. À leur arrivée, les experts n'ont répondu à aucune question. Des membres des services de sécurité ont intimé aux journalistes présents aux environs de s'en aller. En Éthiopie, le chef du TPLF, la rébellion armée du Tigré, refait son apparition alors que des rumeurs le donnaient pour mort. Debretsion Gebremichael a fait diffuser samedi 30 janvier un long message par sa chaîne de télévision satellite qui a repris ses émissions. Cela faisait des semaines qu'on n'avait pas entendu sa voix.
L'invité.
La RDC offre d'énormes opportunités d'affaires. Cependant, il est difficile d'avoir la bonne information sur cette économie, surtout pour les investisseurs étrangers qui ne sont jamais venus au Congo. C'est en tout cas ce qu'affirme Noël Tiani, fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network. Pour lui, les médias congolais s'intéressent plus à la politique et parlent moins de l'économie. Noël Tiani, notre invité, s'entretient avec Daniel Tambinzoni.
Noël Tiani, bonjour.
Bonjour.
De plus en plus, on parle de réseau d'affaires. Dites-nous, c'est quoi un réseau d'affaires et qui peut en être membre?
Les réseaux d'affaires intéressent deux genres de personnes, principalement les entrepreneurs, donc les gens qui sont lancés dans l'entrepreneuriat, et aussi ce qu'on appelle des professionnels, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans d'autres sociétés, de banques, de sociétés d'assurance, même dans les gouvernements. L'objectif d'un réseau d'affaires est de connecter les gens, de faire en sorte qu'il y ait des informations sur qui ils ont, et qu'à travers ce genre de système, les gens sont plus efficaces dans leurs activités, ils trouvent des clients, ils trouvent des investisseurs, ils trouvent des partenaires, et ils ont aussi la visibilité qui est très très nécessaire pour se faire connaître et construire leur marque dans le monde réel des affaires.
Pourquoi vous êtes à Kinshasa?
Je suis venu pour accompagner un investisseur américain qui était venu faire le démarche ici. Donc, on a pu partir avec lui pour rencontrer quelques personnes à la Banque centrale, les acteurs dans l'écosystème tech ici au niveau de Kinshasa, des juristes aussi. J'étais venu pour faire en sorte que je renouvelle des relations que nous avons avec les personnes qui sont dans les réseaux, et on parle aussi de d'autres projets que nous avons comme l'organisation d'un événement l'année prochaine.
Plus souvent, peut-être que c'est mal compris, on dit que les gens qui travaillent en réseau d'affaires sont allés se cacher dans les réseaux pour ne pas répondre à leurs devoirs de fiscalité. Comment vous comprenez cela?
C'est pas correct. L'objectif d'un réseau, c'est d'assister les entrepreneurs et d'autres cadres ou d'autres professionnels d'être plus efficaces dans leurs activités économiques, d'apprendre de ce que d'autres personnes connaissent sur la stratégie commerciale, sur le marketing, sur la communication, sur la publicité, sur beaucoup, beaucoup d'autres sujets juridiques. C'est ça l'objectif d'un réseau, quoi. C'est de nous assister à être efficaces et ne pas nous cacher ou à éviter de payer quoi que ce soit comme impôt au gouvernement.
Réseau international, c'est-à-dire vous travaillez avec des professionnels et entrepreneurs qui sont en dehors de la RDC ou ceux qui sont au pays sont aussi intéressés?
C'est un réseau qui regroupe les personnes dans la diaspora. C'est pourquoi on a une dimension internationale de diaspora en Asie. On a des personnes à Montréal, à New York, là où moi-même je suis, à Paris, en Suisse, à Bruxelles, à Johannesburg, ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, pour faire en sorte que les gens qui sont dans la diaspora, qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe au Congo, dans le monde réel des affaires, ils peuvent parler avec des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Les personnes qui sont au Congo, qui veulent parler avec des personnes qui sont dans la diaspora, ils peuvent parler avec ce genre, demander des conseils, chercher des investisseurs, chercher des partenaires. Donc, c'est pourquoi il y a une dimension internationale et pas un focus seulement sur ce qui se passe principalement à Kinshasa.
Vous êtes venu à Kinshasa parce que vous avez accompagné un homme d'affaires américain. Mais est-ce que votre réseau a déjà ramené à Kinshasa des Congolais? Et s'ils sont déjà venus, ils sont dans quel secteur d'investissement, par exemple?
Oui, il y a plusieurs Congolais qui étaient dans la diaspora, qui sont venus ici. À un exemple, Tony Ngumbu, qui est le fondateur de Mwinda Technologies. Il est installé ici à Kinshasa. Ça fait à peu près une année et trois mois. Il y a Thierry Tubajuka, fondateur de 243 Congo Entreprises, qui est venu aussi des États-Unis s'installer ici. Il a une entreprise, donc le service de location de voitures, des appartements. Il a aussi créé Fly253.com. Il y a plus et plus de personnes dans la diaspora qui s'intéressent au monde des affaires au Congo, au niveau de la France, au niveau de la Belgique. Moi-même, je parle avec des fonds d'investissement maintenant qui veulent créer des fonds d'investissement spécialisés sur le Congo. Donc, c'est ça l'utilité quoi du réseau, informer, donner la visibilité à ce qui se passe sur le Congo en matière des opportunités d'affaires, et aussi essayer de faire en sorte que les gens parlent avec les personnes qui sont les acteurs du terrain, quoi.
Quelles sont les assurances et les opportunités qu'offre aujourd'hui la RDC selon les informations de votre réseau?
Comme vous le savez, le Congo a plusieurs opportunités d'affaires dans l'agriculture, le marché d'énergie, presque tous les secteurs, il y a des opportunités ici. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir les informations correctes auprès des personnes dans le secteur, surtout pour les personnes basées à l'étranger, et aussi pour une institution américaine. Les gens qui n'ont jamais été ici au Congo, c'est très très difficile de connaître cela. L'un des problèmes aussi, c'est parce que le média congolais presque tout ce que vous lisez sur les médias congolais et sur la politique. Donc c'est très très difficile hein, de savoir ce qui se passe dans le monde économique et c'est pourquoi on a besoin de faire un effort énorme de parler de l'économie, des investissements hein, pour faire en sorte que les gens connaissent qui sont les acteurs congolais et quel genre d'opportunités se trouvent dans ce genre de secteur.
Le Congolais moyen, entrepreneur et qui vit dans le Congo profond, qui vous écoute maintenant, comment il vous contacte?
Congo Business Network est un réseau officiel. On a un site internet, congobusinessnetwork.org. Si vous êtes sur LinkedIn, vous tapez Congo Business Network, vous allez voir notre page là-bas avec un peu plus de 24 000 abonnés.
Noël Tchani, merci.
Merci.
Le fondateur du réseau d'affaires Congo Business Network s'entretenait avec Daniel Tambinzoni. C'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.